Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui entend déjà les moqueries, les petites mesquineries de ceux qui aiment chercher dans notre vision du 7e art des facilités, voire des mauvaises habitudes, par exemple celle qui consisterait, on nous l'a déjà fait remarquer, à avoir une attitude des plus indulgentes envers le cinéma espagnol, là où nous n'aurions que mépris pour les productions françaises. Alors certes, mais c'est tout de même pas de notre faute si ce qui se fabrique de l'autre côté des Pyrénées est souvent bien plus intéressant que ce qu'on bricole tristement chez nous. C'est donc sans aucun regret que nous allons prêter nos flancs rebondis, en tout cas les miens, à la critique en consacrant cet épisode à El Reino, avec un quatuor de fiers conquistadors de la pellicule, Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Thomas.
David Honora, buenos dias David.
Si, buenos dias.
Julie Le Baron, salut Julie.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, épisode 187, et c'est parti.
Tu parles espagnol? Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi je sais dire, allons à la plage monsieur Renard, vamos a la playa señor Zorro.
El Reino donc nous plonge dans la politique espagnole sur les pas de Manuel López Vidal, influent stratège de l'ombre sur le point de prendre les commandes dans son parti, mais rattrapé par un scandale de corruption, scandale qu'il va tenter de détourner en faisant éclater une affaire encore plus sulfureuse pour faire tomber de plus gros poissons que lui.
¿Quién es usted?
Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
Sí, sí, la entiendo. ¿Quién es Manuel López Vidal?
Un ciudadano normal.
¿De verdad se considera un ciudadano normal?
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? El problema es tu puta incontinencia verbal, joder.
Le film est signé Rodrigo Sorogoyen, à qui on devait déjà Que Dios no perdone. Est-ce que je le prononce bien, David?
Nos perdone.
Non, pas terrible.
D'accord, ok, merci. Et pour le rôle titre, il a choisi l'impressionnant Antonio de la Torre, aux côtés duquel on trouve également Monica Lopez, Nacho Fresneda et Anna Wagener. J'ai sans doute écorché les noms de tout le monde, c'est pas grave. Notons que le film a récemment tout raflé au Goya, les Oscars du ciné espagnol, cette récompense, dont celle du meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur acteur. Votre avis sur El Reino, les amis? Julien Dupuis, la pétition censée te libérer de cette tâche d'ouvrir le bal n'étant qu'à 97
bon,
signatures à l'heure où nous enregistrons. Tu as donc l'auguste tâche de commencer.
Notre victoire ne sera que plus éclatante.
Tout à fait.
Hein alors, je trouve ça absolument formidable. Moi, j'avais beaucoup aimé Que Dios nos perdone, qui était un film qui avait des limites. Mais
tu
qui
le
avait...
prononces vachement mieux que moi.
Ouais, ça. C'est aussi parce que je commence en premier.
C'est, enfin, pour ça,
c'est tout un truc. Et qui avait surtout pour moi deux grandes qualités. Enfin, le film tenait vraiment là-dessus. C'était à la fois l'étude de caractère du duo de flics qui était au cœur en fait de l'intrigue, et la façon qu'il avait de suivre en fait les deux personnages, notamment dans un plan séquence qui était assez mémorable, une séquence de poursuite qui, à mon sens, fonctionnait moins sur le côté spectaculaire parce que c'était une poursuite à pied, mais qui était finalement assez tendu et tout, mais c'était surtout de voir comment dans la durée les personnages pouvaient évoluer et subir en fait toute cette situation. Et j'ai l'impression que pour El Reino, il a capitalisé justement sur les deux grandes qualités de Que Dios nos perdone, qui est un film éminemment subjectif, où je pense qu'Antonio de la Torre, donc quasiment tous les plans. Il est très fréquemment filmé en courte focale, extrêmement près en fait de la caméra, et dans quelques plans séquences qui arrivent, notamment sur un balcon qui est absolument, je trouve, super, extrêmement tendu, et un autre dans un chalet qui est tout aussi intéressant. Et du coup, ça nous contraint, nous, le spectateur, à avoir un positionnement face à ce personnage qui est très intéressant, puisque c'est un personnage, on est bazardé en fait complètement dans la situation politique qui est relativement complexe. On va recoller les morceaux à mesure que l'intrigue progresse et puis tout le monde autour d'Antonio de la Torre commence à se déliter. Et en tout cas, en ce qui me concerne, on a une empathie en fait pour ce personnage qui se révèle à mesure que le récit progresse. C'est-à-dire que très rapidement, très tôt dans le film, en tout cas en ce qui me concerne, encore une fois, le personnage est absolument abject, oui, et totalement repoussant. Et petit à petit, en fait, il va se découvrir peut-être une éthique, en tout cas révéler une certaine humanité, en fait, dans tout ça, et finir, et je vais dire ça sans, en essayant de ne pas trop spoiler, mais se découvrir une espèce de tragédie, en fait, interne à sa situation. C'est-à-dire qu'il est fatalement contraint d'être là où il est, de faire ce qu'il est amené à faire.
À faire, hein,
voilà.
C'est bien, t'as bien voilà, réussi à ne pas spoiler.
Donc, tout ça, c'est absolument formidable. Et puis, il faut aussi souligner le talent d'Antonio de la Torre, qui est moi un comédien que j'adore, que l'on suit, j'imagine, quand on aime le cinéma espagnol depuis longtemps. Il était chez Alex de la Iglesia, par exemple, et dans plusieurs films dont les titres m'échappent. Mais Colère d'un homme passion,
David, voilà, c'est, voilà, pourra nous faire des titres en espagnol.
Mais voilà. Et qui livre là une de ses des performances les plus puissantes, en fait, je trouve, de sa carrière, ce qui n'est pas peu dire. Et rien que pour lui, en fait, je pense qu'il faut se déplacer en salle et soutenir El Reno.
Julie ?
Eh ben, c'est assez handicapant, en fait, d'avoir Julien Dupuis qui commence, parce qu'au final, il a couvert plus ou moins tout ce que je voulais dire. Moi, en fait, j'arrivais, vu que j'ai une méconnaissance crasse du cinéma espagnol, j'arrivais avec, j'avais pas vu Que Dios nos perdone. Désolé, David.
C'est David qui gère.
Je connaissais pas non plus Antonio de la Torre. Et, du coup, j'ai vraiment trouvé ce film très, très bien. Sur le fait qu'on est direct propulsé dans cette histoire, en fait, ça nous quitte jamais vraiment. En fait, tout va excessivement vite. En plus, c'est souligné par une musique, enfin une tech house que j'approcherai pas avec un bâton en temps normal, mais qui fonctionne bien en fait pendant ce film. Donc notamment pendant les plans rapprochés avec le personnage. Et ce qui fait que, enfin, pour moi, cette musique elle est importante parce que quand elle s'arrête, parce qu'elle est quasiment présente pendant tout le film, et donc les rares moments où elle s'arrête, ça donne une espèce de gravité, de solennité aux scènes, et des moments de respiration parfois que je trouve très réussis. Et moi, j'ai bien aimé en fait ce côté ultra confus où on sait pas vraiment. Enfin, on oublie en fait qui sont les personnages. Enfin, moi, à la fin, pour me référer, je me disais bon bah ça c'est le Matthew McConaughey espagnol, ça c'est Manuel, ça c'est machin. On a du mal à savoir qui est bon, qui est mauvais. En fait, au final, on s'en fiche. Tout le monde est plus ou moins pourri dans la politique et ce film qui a l'air ultra espagnol comme ça tacle un problème assez universel qui est celui de la corruption politique et il le fait à mon sens très bien, genre sans nuance aucune, mais c'est ce que j'ai apprécié en fait dans ce film.
C'est nouveau, ça. On a des petites virgules au milieu de l'émission. Ouais.
Je vous expliquerai après.
Ah, d'accord.
Non, bah alors, justement, parce David. Que puisqu'on parle de musique, non, bah moi, je trouve que c'est ce qui m'a un peu gêné dans le film.
Pardon, mais qui êtes-vous ? Pourquoi vous parlez en français ?
Non, je vais pas tout faire en espagnol.
Ah,
je
sais c'est que, nul.
Je sais que je suis écouté du côté de Grenada, de Valencia, bon. Mais on va parler français parce que c'est un podcast français et que j'ai énormément de fièvre, je suis très fatigué pour vous dire à
tout. Oui, mais on essaye de le vendre en Espagne là.
Je me mouche dans des mouchoirs verts, hein. Vous savez, si vous m'écoutez, que c'est grave. Ce que je voulais dire, c'est que la musique, moi, je trouve que elle est utilisée de manière un peu abusive pour surjouer, à mon sens, de manière artificielle, le rythme. Et en fait, je me suis presque pris au jeu de me dire qu'est-ce que ça donnerait exactement la même séquence découpée de la même manière, oui, avec une autre musique. Et à mon sens, on se retrouverait avec quelque chose de beaucoup plus plan-plan. Et autant je trouve que sur certains passages qui sont en fait très denses en informations et avec un découpage un peu plus haché, ça fonctionne bien. Mais je trouve que trop souvent dans le film, cette musique qui en plus je trouve insupportable, est un cache-misère pour jouer la densité du film. Et en fait, j'aurais pu du coup me retrouver un peu énervé par tous ces éléments-là, si j'avais pas été rattrapé par le dernier tiers du film, mais surtout les deux grandes dernières séquences. Il y en a une première en fait qui commence dans une station-service et rien que le, enfin le décor, la manière dont il est filmé, la manière dont il utilise à la fois la lumière des néons à l'extérieur, l'éclairage à l'intérieur, comment il va trouver une toute petite fenêtre dans les toilettes pour en faire sortir le personnage, et toute la séquence de poursuite en voiture qui s'ensuit, tout ça est extraordinairement maîtrisé. Et quand tu faisais la comparaison en introduction avec le cinéma français, en fait, sur des sujets équivalents, il y en a eu un récemment, je pensais notamment au film dont j'oublie le titre, mais sur l'affaire Clearstream avec Jean Dujardin, L'enquête. On retrouve pas du tout ce genre de virtuosité de mise en scène, et on est sur un truc plan-plan parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'on est sur un sujet extrêmement compliqué en termes de corruption, d'implication des différents pouvoirs politiques. Et rien que ce moment est éblouissant. Et en fait, tu passes d'un moment de mise en scène hyper élaboré, avec des grands angles et du travail sur la lumière la nuit, enfin jusqu'à la fin de la fumée dans la lumière des phares. Enfin, il y a des idées vraiment, enfin, marquantes d'un point de vue visuel. Et après tout ça, on a une dernière séquence qui est sur un plateau télé, qui du coup est dans un décor beaucoup plus exigu et avec des choix de plans et un choix de découpage plus basique et plus simple. Et là encore, je trouve que la scène est virtuose et extrêmement bien construite. Donc c'est quand même une forme de cinéma qui réussit sur des sujets qui pourrait appeler de la mise en scène plan-plan, réussit à être extrêmement ambitieux, et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Et je rejoins par ailleurs ce que disait Julien sur l'acteur principal qui porte complètement le film, et là-dessus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est assez extraordinaire, mais je trouve que par-dessus ça, il y a une vraie ambition de mise en scène, et ça vaut le déplacement.
Stéphane ?
Ouais, moi je pense que c'est même le point important du film. En fait, c'est l'aspect sensitif de cette mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a, moi je suis sensible en général au grand angle, en fait, aux courtes focales. Parce que
sensible tout court, on peut dire.
Oui, mais surtout aux courtes focales, en l'occurrence. Parce que c'est un truc qui est je trouve assez peu employé finalement au cinéma, de manière aussi impactante, en fait, là dans le film. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait il utilise ça, donc effectivement il colle au basque d'Antonio de la Torre, mais il utilise ça en fait pour à un moment donné mettre en perspective ce que toi en tant que spectateur tu peux ressentir vis-à-vis du personnage. Alors, comme Julien, et comme tout le monde je pense à cette table, c'est un enculé qui pour moi en fait n'a pas vraiment de comment dire
d'excuses,
et surtout en fait qui n'est pas vraiment rattrapé par même à la fin, en fait. Justement, c'est ça qui est intéressant avec la scène finale. Sauf que c'est pas joué en fait comme dans le cadre d'un vrai thriller. C'est-à-dire que le film est un thriller parce qu'il est filmé comme un thriller, et en fait c'est aussi ça le point d'intérêt du film, parce que sinon c'est un film politique à la base. Et alors moi, au bout de 20 minutes, j'ai littéralement lâché les enjeux, on va dire, politiques au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'ils ont fait quoi, c'est quoi les trucs. Et en fait, je pense qu'ils essayent même pas vraiment de te donner des clés là-dessus. Je pense qu'ils s'en foutent complètement.
Tu sais même pas de quel parti il est, quelles sont ses convictions politiques.
Et en fait, finalement, c'est des enjeux à hauteur d'homme, et c'est des enjeux à hauteur de politicard, en fait. C'est-à-dire vraiment, c'est comment est-ce qu'on va jouer de la carte avec ce mec que je connais depuis X années qui pouvait pas m'encadrer, et comment je vais essayer de le retourner pour l'autre qui est censé être mon père spirituel, etc. etc. Et jouer sur tout ce que tu peux avoir comme information sur eux pour les retourner et les récupérer pour toi, et se sortir de cette merde dans laquelle le personnage principal s'est foutu, quoi. Enfin, c'est foutu et on l'a foutu, parce que vraiment, c'est ça les problématiques de la règle du jeu, quoi. Donc cette mise en scène sensitive, elle atteint un certain paroxysme au bout d'un moment, parce que l'avant-dernière scène, c'est aussi un accident de bagnole, et c'est un truc qui est tourné en plan séquence et qui est assez impressionnant, quoi. Mais avant ça, en fait, il y a plein de moments où tu vois que en fait la façon dont le cadre qui est pas toujours hyper précis, hein, parce qu'au bout d'un moment ça commence à vraiment se lâcher en fait dans ces trucs. Il y a beaucoup de caméras qui suivent en fait encore une fois le personnage, mais de façon un peu plus leste qu'au début. Et en fait c'est juste certains plans comme ça, ou avec la façon dont il va mettre en place une ligne de fuite dans la courte focale et le placement du personnage dans le truc, en fait il est tout simplement coincé dans le champ, dans le cadre, et c'est ce que tu ressens toi en fait pour augmenter, si tu veux, ce qui est en train de se passer dans la séquence à proprement parler. Et c'est vraiment des petits bouts comme ça, des petits trucs. Je pense que le fameux plan séquence dont parle Julien, qui est en dehors sur un balcon, il est aussi très impressionnant en fait parce qu'il a cette cohérence, c'est-à-dire c'est pas juste un truc, un artefact, tu vois, ils ont pu le faire, ils l'ont fait, et c'est impressionnant, ils te rendent compte au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait tu le ressens aussi parce que tout simplement ces deux personnages qui sont obligés de se mettre sur le balcon, la caméra avec eux, tout simplement parce que en fait ils sont écoutés à l'intérieur, tout le bureau est mis sur écoute, et du coup en fait la caméra se dit on peut pas. Oui. Je peux pas me mettre à l'intérieur, ils vont m'entendre si je capte ça de l'intérieur. Si on filmait ça de cette manière-là, le spectateur se dirait automatiquement, mais moi je suis là, en fait, j'entends tout ce que les mecs peuvent entendre. Donc en gros, là, et c'est ça les idées en fait de mise en scène qui sont assez fortes dans le film. Et moi je mettrais un petit bémol. Alors c'est vrai pour beaucoup de films politiques actuels parce que je pense que le problème en France, c'est que justement on cherche à rester sur les faits et non pas s'inspirer. De certaines voilà, et l'enquête par exemple c'est un exemple assez clair parce que c'est un film qui essaye vraiment de résumer une histoire extraordinairement complexe en 1h30, 1h40 quoi, et donc en fait ça reste vraiment sur les faits, c'est quasiment pas policier, enfin c'est le polar du réel quoi, si tu veux, à la française quoi, et c'est une approche hein, c'est un truc qu'on fait en général en France, mais on n'a pas toujours fait ça hein, je veux dire, sans parler de mise en scène virtuose de cette manière là voilà, Boisset à une époque, il s'inspirait littéralement d'affaires en cours pour faire ses propres films et il dérangeait vraiment, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas, effectivement, du cinéma français aujourd'hui. J'ai un autre exemple, mais je le garde pour Marocco.
Moi, j'avais un autre contre-exemple. Enfin, je ne pense pas que ce soit Tarocco parce que ce n'est pas Anaconda, mais. le contre-exemple récent dans le cinéma français, on en a, je crois, parlé plusieurs fois dans nos ciné, c'est L'Exercice de l'État,
oui.
Qui a aussi une séquence très impressionnante.
Qui
n'a
pas
cette
dimension thriller, pour le coup.
Non, voilà. Mais il y a une ambition de mise en scène et l'autre lien, ce qui me faisait penser, c'est l'accident de voiture qui est extrêmement impressionnant dans le film.
Si je peux rajouter un petit truc, parce qu'on parle beaucoup de thriller,
tu es chez toi ici.
Si je devais l'affilier à un autre genre autre que le film politique, ce serait le cinéma d'action en fait. Et c'est ça aussi qui m'intéresse énormément en fait dans El Reino, c'est-à-dire que on revient encore. Pour reprendre encore, rebondir sur cette scène du balcon, mais qui est une scène pivot, hein, vraiment dans le film, et je pense marquante quand tu sors de la salle, c'est une des scènes qui te reste le plus aisément en fait en tête. Et ce qui est intéressant et là où il est malin, je trouve, sur Ogoyen, c'est que il a abordé l'homme politique comme si c'était un homme d'action, sauf que au lieu de donner des coups de boule ou des coups de poing, eh ben il manie le verbe. C'est-à-dire que ce qui est génial dans la scène du balcon, c'est que c'est presque une scène de bagarre en fait. Ouais. Il se renvoie les arguments, il essaie de pousser l'autre dans un coin, l'autre il se défend, il ressort du coin, il retourne à l'attaque, et je pense que cette mise en scène là participe de ça, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression vraiment et physiologiquement je l'ai ressenti comme ça, de voir vraiment un film d'action qu'un vrai thriller, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a une tension, mais que encore une fois j'affilierais plus à quelque chose d'extrêmement physique, et je pense que le fait d'avoir choisi aussi cette caméra très mobile avec un personnage qui se déplace tout le temps aussi dans l'espace, participe aussi de cette affiliation.
Pour terminer, chers amis, tu voulais rajouter quelque chose? Allez, Julien,
non,
vas-y.
On l'a pas dit parce que c'était super ce qu'a dit David sur la lumière et tout. C'est juste pour attirer l'attention des spectateurs là-dessus. C'est que il y a aussi un super travail sur l'évolution, chromatique et lumineuse du film. C'est un film qui commence de façon extrêmement lumineuse, avec beaucoup de scènes qui sont en plein jour et qui petit à petit va aussi tirer vers des couleurs qui seront un petit peu plus froide, plus des verts aussi vers la fin, et qui va quasiment exclusivement aussi à la fin se dérouler dans le noir. Et je trouve que ça fonctionne super bien.
Moi, j'ai pas envie de donner le dernier mot à Julien Dubuis. C'est toujours le premier mot, tu vois. Il y a cet aspect que je trouve vraiment fort, sans encore une fois dévoiler la fin pour le coup. Mais il y a cette espèce de logique où on n'est pas dans une moralité vis-à-vis du personnage. C'est-à-dire que t'as beau avoir suivi le personnage pendant tout le film, et des fois, c'est difficile en fait de justifier le fait que, indépendamment du cinéma, si tu veux, que t'as vraiment envie de suivre un trou du cul pareil, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que le film te donne pas du tout cette excuse-là, y compris en fait, même si tu penses qu'il va aller dans cette direction-là. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que du coup, à la fin, en fait, ça renvoie dos à dos un système qui profite de lui-même, quoi, en fait, qui s'auto-alimente et dont les personnages de la scène font partie, tu vois. Donc le truc, c'est que c'est intéressant, je trouve, et c'est un truc que je pense qu'on a du mal aussi à faire en France, pour le coup, de pas avoir une logique de moralité sur ce genre de personnage-là, quoi, et de se dire, c'est pas tous pourris, hein, c'est juste, non, j'ai pas envie de te sauver. juste ouais. parce que t'es le héros de mon film. Voilà.
Il y a quand même j'ai un truc à rajouter.
C'est le tour de Julie. Chacun son tour.
Non, mais c'est vrai que par rapport à la morale ou l'absence de morale des personnages, il y a ce truc assez fascinant où tous ont l'air plus ou moins convaincus d'être moins pourris que les autres. Donc nous, en fait, on suit quand même ce gars qui arrive quasiment à s'auto-persuader que bah, il est moins pourri que les autres. Donc du coup, il va les faire tomber, quitte à ce que lui, il tombe aussi. Et il y a... Et en fait, bah, c'est dur à dire sans trop dévoiler la scène de fin, mais il y a un truc qui, pour moi, en fait, porte tout le message du film. C'est qu'il y a un côté grande confusion où on oublie complètement ce qu'on fait, on est trop occupé à pointer l'autre, quitte à être complètement hypocrite, et sans jamais s'arrêter en fait, pour se poser des questions sur ses propres agissements. Quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment très fort dans la scène de fin. Voilà.
C'est bon, tout le monde a rajouté son petit mot.
Ouais, David, vous voulez dire un petit mot pour nos auditeurs espagnols.
David,
allez le voir.
Moi, de l'autre côté des j'attends pyramides. La reco, je suis bon élève.
Ok, très bien, c'est bien, super. Donc, on va passer effectivement aux recommandations d'usage, hein, comme on dit. On pourrait dans le cinéma espagnol, mais vous n'êtes pas obligé. Vous savez que c'est un moment de liberté. David, comme tu as été extrêmement sage durant cette émission, tu as le droit de commencer.
Du coup, ouais, pour ma reco, je vais faire justement une infidélité à mon public espagnol en recommandant un film italien.
On va encore perdre des auditeurs.
Auquel j'ai un peu pensé parce qu'il y a plusieurs, j'y trouve plusieurs points communs. C'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri. C'est un film de 70 avec Gian Maria Volonté, que vous avez vu par ailleurs dans quelques westerns. Et le pitch est assez séduisant. En gros, c'est un commissaire de police qui assassine sa maîtresse au début du film et va tout faire pour donner tous les indices pour que ces hommes, sa police trouve que c'est lui le coupable. Mais de fait, le système va s'enclencher pour que ça paraisse absolument impossible que ça soit lui. Et donc on suit, pareil, on est complètement collé à son personnage pendant tout le film. Et puis on suit toute sa manipulation, et puis il y a des montées en puissance. Et puis par ailleurs, il y a aussi une utilisation peut-être abusive de la musique. C'est une superbe BO d'Ennio Morricone.
Comment tu peux dire ça?
Mais qui, enfin, moi, le score est extraordinaire et porte complètement le film. Mais pour le coup, c'est de la meilleure musique, à mon sens, que ce qu'il y a dans El Reino.
Ah oui, ça, c'est pas difficile.
Tu dis.
Moi, ma recommandation, dans le genre politicien, média, tous pourris, ça va être des hommes d'influence, donc de Barry Levinson, qui raconte l'histoire du président des États-Unis qui est accusé d'abus sexuels, en fait, juste avant sa réélection. Et donc, son spin doctor, qui est incarné par Robert De Niro et toute son équipe, vont essayer de divertir l'attention des électeurs et des médias en créant une fausse guerre dans un pays dont tout le monde n'a rien à faire. Là, en l'occurrence, c'était l'Albanie. Et ils vont monter tout un truc, dont une espèce de faux documentaire avec une jeune Kirsten Dunst et un chaton pour apitoyer les masses. Et c'est vraiment très bien et très drôle.
Julien, tu as même emmené ta recours dans ton sac à dos.
Écoutez ça. Voilà, ça se pose là quand même, quoi. Non, t'as entendu, Quentin? Bon. C'est le 12e opus des coffrets ultra collector de Carlotta. C'est-à-dire qu'ils sortent ces coffrets extrêmement volumineux qui sont accompagnés en général d'un livre. Enfin, toujours d'ailleurs, d'un livre.
Oui, toujours, ouais.
Et avec des très belles copies et puis des super suppléments. Et le dernier, il est magnifique, c'est Network de Sidney Lumet, qui est peut-être moins un film sur la politique qu'un film sur les médias, même si, bon, les deux sont un peu... Tu es bien placé pour le savoir, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Les deux sont intrinsèquement liés, quand même, chose, hein, de façon assez malsaine, d'ailleurs.
Nous aussi, on est pourris, comme
voilà,
les
exactement,
politiques.
Voilà, exactement. Alors déjà, il y a le plaisir de revoir le film dans une super belle copie. En plus, il y a un excellent documentaire qui était inédit en France, je crois. Alors, je ne sais pas s'il était passé sur des chaînes câblées, mais sur Sidney Lumet, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Puis l'homme est toujours passionnant à écouter. Et ce qui est génial de Network, c'est que c'est un film qui a été fait dans les années 70, mais qui reste incroyablement d'actualité, alors que les médias ont quand même... vraiment énormément évolué depuis. Ils se sont beaucoup dégradés. Et on dit souvent, alors c'est un peu une banalité hein, sortir, mais sur des grands films comme ça qui sont prophétiques. Là, je trouve que c'est vraiment, vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est génial de revoir Network aujourd'hui pour comment dire, avoir une espèce de recul sur ce qui peut éventuellement se passer aujourd'hui, y compris à l'heure des réseaux sociaux, parce que tu te dis qu'on le referait aujourd'hui, ce serait exactement, on aurait exactement les mêmes problématiques, on aurait exactement les mêmes finalités, on aurait exactement le même type de déviance chez les différentes catégories de personnages. Alors, contrairement à La Réunion, c'est pas du tout un film subjectif, c'est presque un récit choral, en fait, Network. Mais il y a des personnages qui sont particulièrement bien écrits aussi dedans, à tel point qu'on pourrait presque le qualifier, pour le coup, parce qu'on parlait de thriller et de film d'action pour Al Reno, là, Network, il y a un petit côté presque film de monstre. C'est-à-dire que c'est des monstres qui peuvent être créés par le système médiatique. C'est il y a un monstre qui est interprété par Faye Dunaway, qui est hallucinante dans le film. Alors, ça, apparemment, ça a été une tannée sur le tournage, Faye Dunaway, comme souvent. Mais elle a été particulièrement difficile sur Network, c'est une notoriété publique. Mais elle est géniale dans le film. Elle est, en quelque sorte, l'incarnation de la nouvelle télévision, on va dire ça comme ça. Et je vous invite aussi à revoir, si vous l'avez déjà vu, alors il faut le voir, le film, je pense, et sinon à le revoir sous ce prisme-là, parce que je pense que ça peut révéler quelques trésors insoupçonnés, peut-être.
Peut-être, Stéphane.
On parle
de trésors
insoupçonnés. Mais on parlait du cinéma français, et moi, il y a un film que j'aime bien récemment, en fait, de ces 10 dernières années, en fait, qui est Une affaire d'État d'Éric Vallette, qui n'est pas vraiment un film politique au sens strict du terme, en fait, mais qui utilise justement, en fait, cette toile de fond pour faire un film d'action avec ça, quoi. Et du coup, bon, il traite quand même du sujet de la France-Afrique et ce genre de choses, tu vois, donc ça fonctionne assez bien. Donc ça, je le recommande parce que c'est un exemple de thriller français, en fait, politique, quoi. Et je crois savoir que Éric Vallette se joint à moi pour vous recommander Anaconda parce qu'il est très fan aussi. Voilà, donc.
Donc,
j'en étais sûr. C'est une double reco.
J'ai cru que ça allait passer par un autre film français récent qui parle de la France-Afrique. Et qui s'appelle
Black Snake. Ouais, mais ça marche pas.
Ça a été un peu plus.
Mais non, mais c'est parce que tout le monde dit ouais, mais Anaconda c'est bon, mais je suis pas tout seul à aimer Anaconda, on est d'accord.
Non, bien sûr.
Eric Vallette aussi. Voilà.
Beaucoup de gens respectent Luis Loza, a raison. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin, la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.